Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023, il est 20h. Et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Bienvenue à tous pour cette première édition de 2023 avec ce nouveau générique signé Pierre Marcel, que je salue et remercie pour ce formidable générique. Alors, ravi de vous retrouver. Hein, ça fait quelques semaines qu'on s'était quitté, mais c'est la reprise des choses sérieuses, hein, après un petit mois de se détendre là-bas dans le désert, mais les choses sérieuses recommencent. La Croquis Cup, la Coupe de France, toutes ces grandes compétitions. On est ravis en tout cas de revenir et de pouvoir parler de ce qui nous passionne, le football, sous toutes ses coutures. Alors on va parler de tout ce qui, de plein de choses qui se sont passées depuis la fin de cette Coupe du Monde, et on va parler donc aussi de transferts, de rumeurs, de retraites, de tout plein d'autres choses, mais aussi et bien sûr de football, de matchs de football, les matchs de ce week-end, notamment avec moi ce soir à mes côtés. Il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il va ce soir encore, je suis sûr, nous apprendre plein de choses dans le domaine du business, du football. Enfin, en tout cas, on va, comme d'habitude, se régaler à l'écouter, à discuter avec lui. Ravi de te retrouver, Alex, monsieur Alexandre de Meijer. Salut Alex, tu vas bien?
Salut Sam, bonsoir à tous et surtout bonne année à tous.
Bonne année sportive. Exactement. Une bonne année 2023 à tous. Eh oui. Alors on va avoir besoin de son expertise, mais même de sa mémoire. Hein. C'est vrai que pour se retrouver Anderlecht champion, ça commence à dater un petit peu.
Nous pas de l'attendre, c'est des moins de.
Et on va essayer de comprendre avec lui ce qui se passe un peu en ce moment de côté de son club de cœur, les Mauves. Anderlecht, c'est bien sûr Henri, monsieur Henri Daniel. Salut Henri.
Bonjour Samuel, bonjour Didier, bonjour Alex, bonjour à tous et bonne année. Qui a bien commencé pour nous.
Ah oui, écoute, c'est comme ça, ça. C'est parfois un peu difficile, mais c'est difficile pour les uns. C'est difficile aussi parfois pour les autres en ce moment, hein, monsieur Didier. C'est son grand retour en studio après des semaines et des mois où il participait via Skype. Et bien voilà, le Blauwenzwart numéro 1 de la radio, la voix du matin, mais également parfois aussi la voix du soir, comme ce soir. Monsieur Didier Cohn, salut Didier.
Salut Sam, salut Alex, salut Henri, ravi de vous retrouver ici en studio. Et oui, bah, il y a des jours comme ça, mais enfin bon, s'incliner à Genk quand on voit, et on y reviendra j'imagine, quand on voit le jeu développé par nos amis limbourgeois, il n'y a pas de honte non plus. Et en même temps, on a fait plus que bonne figure. Je vois Alex qui fait la moue. Non, il n'y a pas d'air au bout. Hein.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Mais justement, c'est ça le principe. Et pourtant, on aime tous les deux ce club d'une certaine façon.
Tout à fait. Tout à fait. Plus que ça. Même.
Voilà.
Là, on fait l'amour.
Ben oui, on va parler, vous l'avez bien compris au programme ce soir, donc de Pro League, bien sûr, avec la 19e journée du championnat qui a été disputée ce week-end. Et donc, comme je vous le disais, il sera également question d'actu fraîche, les transferts, les signatures, les rumeurs, les retraites, les scandales aussi, parfois. Alors, je vous propose qu'on démarre sans attendre. Coup d'envoi, et on commence tout de suite par la 19e journée de Pro League. Et je vais dire à tout seigneur, tout honneur, on commence par le choc qui opposait le leader Genkois au champion en titre, au champion brugeois, et ce sont les joueurs de Genk qui l'ont emporté sur le score de 3-1. Pas mal de choses à dire sur les performances de ces deux équipes, sur le scénario aussi du match. Qui souhaite commencer, Didier, pour ton grand retour?
Allez. Oui. Avant que Didier commence, on va quand même noter, durant l'intersaison, il y a quand même eu le licenciement de Karl Hoefkens.
C'est vrai.
Le T1 du club de Bruges, suite à une défaite vraiment très malheureuse et très stupide en coupe face à Saint-Tron.
Conjugué à un match nul contre OHL.
Conjugué à un match nul tardif et tout aussi ridicule face à OHL. Et donc, c'est
donc
l'anglais.
Exit, et voilà.
Exit Karl Hufkens. Et c'est l'anglais Scott Parker, qu'on a bien connu en tant que joueur, qui a passé par Chelsea, par Charlton.
Newcastle aussi.
Je pense Newcastle
Southampton,
aussi.
C'est possible que j'ai vu ça. Chelsea aussi, on a dit.
Chelsea, de toute façon.
Et puis surtout, 15 caps en, chez les Three Lions.
Où il a une fois été capitaine, même.
Absolument.
Mais surtout, il a repris Fulham. Il a été coach de Mitrovic, qu'Henri connaît très très bien à Fulham. Denis O'Doy aussi, ça se voit. Et maintenant, il débarque à Bruges. C'est quand même un Anglais en Belgique. Ça nous fait donner des vibes au début des années 1900. Et donc, c'était son premier match à Genk hier. Donc,
C'est ça, il a...
Je trouve qu'il a un certain charisme. Après, je ne peux pas encore juger sur... Mais il présente bien.
Il est beau gosse.
Il a une prestance.
Ouais.
Ce n'est pas une question de beau gosse, mais il avait de la prestance. Il avait... Voilà, je trouvais...
Il dégage quelque chose.
Absolument.
Que ce soit dans le vestimentaire, dans le flegme, dans l'attitude.
Et même
dans
sa façon de... Oui, dans la façon de communiquer avec ses joueurs. Pour la plupart, il les découvrait. Et j'ai trouvé... On avait l'impression qu'ils se connaissaient déjà depuis plus qu'une semaine, d'une certaine façon.
Et pourtant, ça n'aura pas tout à fait suffi pour une première... est-ce que le résultat donc du match 3-1 vous paraît-il refléter la différence de niveau entre les deux équipes hier soir d'une part et de manière plus générale depuis le début du championnat.
Alors, je voudrais quand même revenir un instant sur le départ de Karl Hufkens. Je pense que, alors bien sûr, le déclencheur, ça a été le 0-1-3 ou 1-4 à la maison. 1-4 contre Saint-Tron en coupe, puis le 1-1 à Auchel. Après, les deux derniers matchs avant la trêve, c'est deux fois qu'on mène au score 2-0, qu'on se fait remonter de manière tout à fait, je dirais, faute professionnelle, d'une certaine manière. Et donc, peut-être que, on va dire, le vestiaire l'a lâché, pas lâché. Enfin bref, il y avait vraiment un malaise quelque part pour une équipe qui a des prétentions comme celle de Bruges. Il faut bien appeler un chat un chat. Et donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Alors c'est dommage, je disais à Sam en plaisantant la semaine passée, c'est quand même dingue, si à l'école, chaque fois que les élèves avaient un mauvais bulletin, ben on devait virer les profs. Moi j'aurais été vachement heureux, j'aurais fait des études bien plus longues. Et en foot, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Les joueurs, ils jouent mal, c'est l'entraîneur qui saute. C'est toujours le jeu, mais c'est le jeu. En même temps... je ne suis pas suspect de ne pas être cohérent. Je disais depuis le début de la saison, ok, les résultats sont là, mais je ne trouvais pas qu'il y avait la patte Hufkens dans le jeu brugeois. Il y avait rien. C'était une espèce de Clément bis ou un truc comme ça. Donc, et là, j'ai retrouvé. Alors, sur une semaine, on peut pas tout changer diamétralement, c'est clair. Mais j'ai trouvé un autre système de jeu aussi. Ils ne se sont pas obnubilés par aller par l'axe et des petites passes tititaka, ça avait disparu. C'est pas non plus le football aura vers l'avant, on tape tout devant. Et je pense qu'il y aura une mise en place qui va se faire. Si la mayonnaise prend, ça risque d'être plaisant, parce que moi j'ai vu, alors Alex et Henri, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai vu un beau match de foot en fait. J'ai vu deux très belles équipes, en tout cas pendant 35 minutes. Les 35 premières minutes étaient dignes d'un grand championnat, honnêtement. Et après, j'ai envie de dire, le but brugeois est splendide. Le but égalisateur de Genk tombe un peu nulle part, d'une certaine façon c'est un peu stupide, mais souvent Bruges prend des goals ridicules. Après, il n'y a plus eu match. Parce que quand Genk a commencé à, quand ils ont commencé vraiment à marcher sur l'eau, comme on le dit depuis le début du championnat, moi j'ai trouvé le deuxième but de Genk, ça c'est un but d'école, c'est juste indéfendable. C'est ouais. Indéfendable. Hein.
Mais le premier est ridicule aussi.
Le premier est ridicule, mais le deuxième
est indéfendable. C'est des erreurs individuelles. Il y a beaucoup, en fait, il y a eu beaucoup d'erreurs.
On a tout en un temps.
Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles du côté de Bruges.
Exact.
Maintenant, tu parles de la patte de Scott Parker. Mm-hmm. Effectivement, on le voit directement. Donc Bruges qui joue en 4-3-3 à Genk, on a un back droit qui est très offensif, qui est très haut, qui s'appelle Tejon Buchanan, qui a été replacé là, à la place d'être attaquant droit ou gauche, il a été placé défenseur latéral droit. Donc il doit déjà, lui, dans son jeu, reculer. Et de l'autre côté, on a un Meyer, le jeune Hollandais, il a 19 ou 20 ans, je pense, qui vient de Groningen, qui lui est déjà plus défensif, mais c'est quand même lui qui donne l'assist sur le but
tout
de Van Aken. Et on voit directement la patte Parker avec... Buchanan qui est offensif sur la droite, Meyer qui est un peu plus défensif sur la gauche, et on voit aussi Hans Van Aken en tant que 10 qui joue très très haut.
Oui, et alors je rebondis là-dessus parce que jusqu'à présent, moi c'était un grand point d'interrogation pour ma part. Je trouvais Meyer, je me suis demandé ce qu'il faisait à Bruges depuis le début de la saison. Non pas, je le trouvais pas transcendant, à part que il avait un rôle défensif. Hier, ça perçait le long de la ligne. Ce gars, t'as l'impression que c'est un grand attaquant, quoi. Comment il se défait, parce que à Genk, c'est quand même pas
coûté des... quelques millions. Hein.
Mais exceptionnel, hein. Il est petit pont, machin, dans un mouchoir de poche, plus la passe à Van Aken, qui était d'une lucidité à faire peur. Mm-hmm. Franchement, j'avais l'impression qu'il était libéré, parce que jusque-là, il se cantonnait toujours à faire le piston. Mm-hmm. plus défensif qu'offensif. Et là, j'avais l'impression que il a, pour une fois, j'ai vu vraiment le talent meilleur. Je me suis dit, ah, bah oui, maintenant, je comprends pourquoi on l'a transféré. S'il arrive à reproduire des prestations comme celle-là, franchement, ça commence à prendre sens.
Mais disons que depuis le début de saison, il n'a jamais été exceptionnel, mais il n'a jamais été mauvais non
plus. C'est
vrai. Il a toujours fait ses matchs. Et pour un jeune comme ça, je trouve qu'il grandit. Il apprend. Mmh. Il évolue à chaque match. Et on voit cette évolution avec cet assist, enfin, cette évolution offensive dans le cas présent, avec cet assist pour Van Aken.
Et c'est marrant, mais ce que après, tu dis, parce que j'ai même parlé à Sam tout à l'heure, je disais la percée de Jutla, parce que il y avait du Jutla là-dessus. Et, techniquement, c'était juste incroyable ce qui nous a fait le meilleur là sur le flanc.
Et c'est après, juste... Bruges, pour moi, est retombé dans ses travers.
On est d'accord.
Et je trouve, à titre personnel évidemment, et en tant qu'analyste, c'est un peu facile de tomber sur Karl Hoefkens. Parce que pour moi, le problème du club de Bruges, il est bien plus profond que ça, il est bien plus lointain que ça. Je trouve que sous Clément, même la première saison était très bonne, sans être exceptionnelle non plus, il y a eu le Covid. Il n'y a pas eu de play-off, Bruges a été déclaré champion, pas sur tapis vert, mais je pense que vu l'avance de 18 ou 20 points à l'époque, Bruges l'aurait été de toute façon, mais Bruges a été déclaré champion. Et je trouve qu'après, sous Covid, dans les stades vides, et surtout sous Clément et sous le staff de Clément, qui a les mêmes carences à Monaco aujourd'hui, il y a une certaine facilité, une certaine décompression, une certaine suffisance qui s'est installée dans le noyau et qui est restée sous Clément.
Mais il y a quand même la
deuxième saison, il a eu le titre. On termine à égalité, enfin, Bruges termine à égalité avec Genk, si je ne m'abuse. Un match de plus, il n'avait pas le titre. La troisième année de Philippe Clément, l'année où il part à Monaco, il y a cette même suffisance, il y a cette même nonchalance, il y a ce même manque d'envie, je trouve, Didier pourra me contredire si, en tant que supporter
de Bruges, avec toi.
Il y a cette même suffisance qui s'est installée. Après, cadeau du ciel, l'AS Monaco débarque pour prendre Philippe Clément et tout son staff, merci, au revoir, il est parti, Alfred Schroeder est arrivé. L'ambition Schroeder, elle était très simple.
Finir champion.
Tu vas être champion. Et le foot, ça nous intéresse pas, mais le résultat, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est ce qu'il a fait.
Il y a eu une série de 7 matchs consécutifs où Bruges gagnait souvent par le plus petit écart, mais Bruges gagnait.
Arsenal, tout à fait.
Bruges est revenu. Bruges était à quelques points à l'Union. Ils sont passés au-dessus dans les play-offs, l'histoire de 15 centimètres lors des deux matchs. Mais cette suffisance était toujours un tout petit peu présente. Schroeder n'a pas réussi à l'enlever. Karl Hoefkens, qu'on connaît du staff de Philippe Clément de quelques années avant, qui est passé par Club Next, qui regarde Rick 2000 aussi, que tout le monde connaît, qui a repris de Clément, on se souvient, recommence, et cette même suffisance est toujours restée. Il n'y a pas eu une nouvelle patte, comme Christopher Dom, comme Michel Preud'homme auparavant au club de Bruges, qui a réussi à un tout petit peu réveiller ce groupe, à inculquer la culture de la gagne, à inculquer cette envie de presser, cette envie de battre son adversaire, cette envie d'être le meilleur. Sauf en Ligue des Champions, il n'avait pas besoin
donc, s'il
de motivation.
Donc, s'il avait plus d'aptitude tactique, tu dirais qu'un Marc Wilmot serait... parce qu'en termes de meneur d'homme et de Niak...
Par exemple, après, c'est un peu un match. C'est des personnalités,
bien sûr.
Culture de groupe, face à un entraîneur, une façon de travailler, énormément d'ego et surtout à Bruges. Mais force est de constater, Hoefkens, malheureusement, il n'a pas réussi à se mettre au-dessus du groupe et à motiver ce groupe. Et maintenant, on se retrouve dans cette même situation. Maintenant, il faut espérer que Scott Parker y arrive. Malgré son jeune âge, mais il a quand même une carrière en tant que joueur que beaucoup n'ont pas au club de Bruges.
Clairement.
Et qui pourrait peut-être, alors à ce moment-là, forcer ce respect, inculquer cette culture, et les bêtises de Mignolet, et surtout la bêtise de Silla, qui en a sa troisième rouge en quelques semaines de temps, pour exactement les mêmes raisons, et la réaction de Van Aken en dit long, c'est ça qu'il faut enlever d'urgence du jeu du club de Bruges et se remettre sur les rails en tant qu'équipe du top et meilleure équipe de Belgique.
Je pense qu'on apprend plus par la défaite que par la victoire. Pendant 3 ans, ils ont dominé le football belge. Je me rappelle de certaines émissions ici où on parlait, on disait même s'ils sont menés, ils sont tellement confiants que ça va...
Il y a confiant et confiant. Alors, tu parlais de suffisance, Alex, et je te rejoins à certains égards, mais à la limite, ce que tu dis, quand je vois l'Union jouer aujourd'hui, ils ont aussi cette confiance en eux incroyable. T'as l'impression qu'ils sont menés ou pas menés, etc. Mais il n'y a pas de suffisance dans leur jeu. C'est une grande différence.
L'abnégation et l'envie.
Absolument. Mais tu as l'impression qu'ils ne sont jamais déstabilisés, qu'ils soient menés ou pas, et pas rare qu'ils égalisent ou qu'ils gagnent, même dans les arrêts de jeu, etc. À Bruges, effectivement, et là, je te rejoins, en tant que supporter, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce qu'on est battu que par nous-mêmes, d'une certaine façon, à part qu'à Genk, c'est une équipe exceptionnelle. On est d'accord. Enfin, je veux dire, tout a pris, Vranckx fait un travail juste exceptionnel. Mais chaque fois, en tant que supporter, je me dis, et maintenant, on mène 2-0. C'est quoi qui va, qui c'est qui va déconner? Et
il y a toujours. Qui va tomber sur le coin de.
Mais c'est même pas de la malchance, on peut même pas dire ça. C'est même pas qu'on subit une pression.
La suffisance.
On donne les cadeaux. On donne le bâton pour se faire battre chaque fois. Quand je dis 11, parce que je m'associe à la défaite, d'une certaine manière, bah oui, hein, on n'est pas supporter de la victoire uniquement.
Je vois aucun but contre son camp et aucune perte de balle à ton actif cette saison. Donc c'est
l'an passé, il y avait comment il s'appelle,
Schröder,
en défense centrale parisien que vous adorez, que tu
adores.
Ensoki, voilà, Ensoki. Qui était très bon quand il n'était pas très mauvais. Il y a une question de, je pense à Silla qui a fait super. Alors ils ont pas le
mais
même.
Il est toujours bon lui. Il a juste toujours... pas tous les frites dans le même sachet comme on dit ici. Mais il a fait un match jusqu'à ces deux. À part ces deux fautes qui sont, la première est peut-être dehors. On est d'accord, on y reviendra. Pour moi oui, c'est faute volontaire. Voilà, c'est rouge, c'est bon. Si on a donné une rouge à NDI, on peut donner.
C'est différent.
Ouais. Non mais. Bref, moi je trouvais que c'était quand même. C'était pas c'était une
spectaculaire.
Sale faute.
Disons que la faute voilà. était spectaculaire. Ce qu'on se disait, il arrive à pleine vitesse. Il y a évidemment anti-jeu parce que
anti-jeu, carte jaune, il va pas, on n'enlève pas une occasion de but spécifique.
Il est trop loin, il est trop excentré.
Mais faute volontaire,
oui, c'est un croche-patte. Il n'y a pas de pied en avant, il n'y a pas de semelle, il n'y a pas de
crampon. Non, il n'y a pas de méchanceté.
Pour moi, c'est jaune et ça reste jaune.
Mais fait un croche-pied volontaire, voilà.
Enfin, tandis que la faute sur Lazare à Anderlecht, maintenant qu'on en parle, c'est ôter une occasion de but parce que il file diagonalement vers le goal, Lazare. Et sur sa gauche, il y a Boniface ou Adingra, je pense à Boniface, qui est libre. Donc la passe est normalement, si tu t'appelles pas, il y a Remchuk, c'est toujours but. Donc
normalement, je sens la déception.
Donc du côté d'Anderlecht, malheureusement, c'est en fonction des règles strictes de l'arbitrage. Mais
on est d'accord.
Il n'y a pas une méchante faute. C'est rien du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris que un match avec sursis de suspension. Mais malheureusement, c'est ôté une occasion de but, et c'est ce qu'on a vu par le passé, qu'un gardien qui touchait légèrement un joueur, il prenait une rouge.
Revenons sur le match,
je voulais dire, à part ça, ce gars avait fait un match jusque-là, et à part ses deux fautes, il était irréprochable. Hein.
Oui, mais je ne trouve pas, parce qu'il y a quand même une grosse perte de balles sur l'occasion de Heinen.
Il n'en a pas touché une hier.
Non, je suis d'accord, mais pour moi, il a des problèmes motoriques aussi, Silla, il ne sait parfois pas où le ballon est, il veut le dégager du gauche, il tombe sur son droit.
Quel âge il a aussi?
Ça, on sait pas. Mais, en général, en Côte d'Ivoire, quand t'es né le 25 décembre.
Oui,
je me pose beaucoup,
dire.
Moi, je me pose
il
des questions.
Le 25 décembre, mais ça, c'est un problème. Cette année.
mais non, je trouve Silla, effectivement, il a du talent. Il a du talent comme 150 000 footballeurs en ont. Il a de la chance d'être arrivé à Bruges. C'était un coup de poker. Mais je trouve que si Bruges veut cacher, il faut le vendre cet été et pas attendre qu'il soit au-dessus de son top parce que je, personnellement et psychologiquement, je ne vois pas ce joueur évoluer.
Non, il a pas eu
d'ailleurs, une altercation avec les coéquipiers, on l'a vu déjà sur le terrain, son deuxième geste, celui qui l'amène à prendre un jaune, il allait effectivement, on sent qu'il a les fils qui se sont touchés à ce moment-là.
Non plus.
Oui, non.
Ils ont disjoncté.
C'est la troisième fois cette saison.
Ouais, et c'est vrai qu'on peut s'étonner en se disant, alors Alex, t'as sans doute raison sur l'orthodoxie des règles, ça ne méritait sans doute pas le rouge direct. Mais la faute, et on sent que ça, la première a quand même été bien vue par tout le monde et bien, elle a pesé. On se dit que dans un cas comme ça, quand vous êtes l'auteur d'une telle faute, que vous avez passé de pas loin, peut-être que vous devez la jouer un petit peu plus profil bas.
D'ailleurs, dans son body language après la première faute, tu le vois à terre, il reste et il sait très bien qu'il
peut prendre le.
Il est en sursis parce que tu vois à sa tête qu'il pense qu'il va être dehors. Ça, c'est une évidence.
C'est pas 100% la faute du joueur. Normalement, sur le banc à Bruges, Rick Demille le connaît suffisamment depuis un an et demi pour savoir que il va vriller. Parce que moi, je le sais. À la 66e minute, j'ai regardé le match avec des potes avant d'aller à Burnley. 66e minute, j'ai dit, si là, il va prendre rouge dans les 10 minutes qui suivent. Bah, 7 minutes plus tard, c'était le cas. Et ça, tout le monde le sait. Donc, sur le banc, ils le savent aussi. Il faut préserver ce joueur contre lui-même à un moment. Ou bien, c'était un test pour voir s'il avait appris des deux cartes rouges précédentes.
Non.
Ben, non. Malheureusement, il n'a pas du tout appris.
Par contre, pour revenir un instant sur Hopkins.
Excuse-moi. Van Aken, je vais presque paraphraser Philippe Albert, mais je lui vole aussi dans les plumes parce qu'il abandonne son équipe à ce moment-là avec un quart d'heure de jeu. 2-1 seulement pour Genk. Si Bruges est à 11, il y a encore des occasions qui vont venir et on ne sait jamais. Et là, il abandonne son équipe et c'est pas la première fois non plus. C'est pas une erreur de jeunesse.
Non, non, mais là-dessus, on est clair, mais Van Aken, alors, c'est tout le débat. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un meneur? C'est un guide, c'est un type extraordinaire, il a bien élevé, il a tout ce que tu veux, mais c'est pas un Vormer, quoi. Vormer, il avait une niaque, il faut lui laisser ça. Même à 45 ans, il pourra encore demander aux gens, comme un Teddy Thomas, qui a l'air plus vieux que ce qu'il n'est, mais c'est des vrais leaders. Van Aken, je pense pas que ce soit un leader, c'est un leader qu'on a fait leader, parce que c'est le meilleur, soi-disant, de l'équipe, pourquoi pas. Par contre, pour revenir à Hufkens, tu disais, ok, la suffisance, le machin, alors comment expliquer les performances, parce que c'est pas du hasard, en Champions League, où on a vu une équipe brillante, vraiment, que bon, c'est vrai, c'était la surprise du chef, tout ce que tu veux, mais tu vas pas t'imposer 0-4 à Porto par le fruit du hasard, tu ne fais pas match nul contre l'Atlético de Madrid par hasard.
Donc quand même un petit peu là, mais, vu la physionomie du match.
Oui, mais bon, tu avais un grand Mignolet aussi, on est d'accord, mais il y avait un fond de jeu, il y avait une niaque, il y avait... Pourquoi ne pas pouvoir reproduire ça?
Il y a des joueurs qui ont énormément de talent, qui forment le meilleur groupe de Belgique, mais ce jour-là... Les joueurs n'ont pas besoin de motivation.
C'est vrai. Mais alors ça, c'est triste.
Ils ont besoin d'aucune motivation. Et contre l'Atlético, contre Porto, contre Leverkusen, d'ailleurs, le premier match.
Bah donc, tu es en train de me dire que moi, le matin, si on me dit que j'ai 30 auditeurs, je vais pas du tout faire de la radio de la même façon que si on me dit qu'il y en a 3 millions.
Bah, non, pas forcément. Ah bah. Mais quand t'arrives
le matin et que tu sais ce que tu dois faire, il y a peut-être un challenge en moins.
Je suis d'accord, hein, psychologiquement, c'est leur taf.
C'est leur taf, mais il y a sans doute une part psychologique qui fait que quand vous arrivez dans un stade dans lequel vous ne jouez quasiment jamais, qu'en face de vous, vous avez des joueurs que vous croisez jamais, sauf à la télévision, il y a cette petite musique,
On est d'accord,
mais. Il y a tout le décorum de la Ligue des Champions. Je suppose que ça donne un surplus. Ce qui est plus gênant, c'est effectivement, quand en Pro League, ils ne parviennent pas à transcender.
C'est même pas ça qui m'inquiète, moi. C'est que chaque fois, et je parle de nouveau sous ton contrôle, l'Antwerp, on mène 2-0. L'Union, on mène aussi 2-0.
Face à 10.
Saint-Tron en Coupe, on mène, je pense.
Genk, tu mènes.
OHL, on mène. Et Genk, on mène. Donc on mène chaque fois. Donc ça veut dire qu'ils ont la niaque. Ils arrivent à pousser et à faire en sorte de pouvoir mener au score, et on ne sait pas garder un résultat. Alors 1-0, ok, on sait très bien sur un malentendu, mais 2-0, quand tu t'appelles Bruges et que tu as des prétentions, tu peux pas. Et sur des adversaires directs, c'est intolérable.
Dans un match comme ça, face à l'Antwerp, tu courras peut-être juste un tout petit peu moins vite. Tu feras le geste en moins, tu te diras, mon coéquipier va bien le faire. Tandis qu'en Ligue des Champions, tout le monde était drivé, un focus à 200%. Et comme tu dis, Sam, cette musique, l'atmosphère, tu te sens valorisé, tu pars en avion, dans un autre stade, etc. Ben, ça les amuse beaucoup plus que prendre le bus la semaine prochaine pour aller à Saint-Tron.
C'est ça, j'imagine.
Avec tout le respect qu'on a pour Saint-Tron.
Oui, mais quand vous arrivez, effectivement, que vous arrivez à Porto, à Madrid, que vous allez à l'hôtel, qu'il y a les journalistes du monde de l'Europe entière qui sont là pour vous interviewer. Alors qu'habituellement, voilà, vous êtes à Saint-Tron ou ailleurs, il doit y avoir un surplus de motivation.
Dans un autre registre, j'ai envie de dire, au niveau de la niaque, etc., je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie.
On va y venir.
Mais très honnêtement, moi j'ai adoré, et je n'étais pas le seul, les commentateurs l'ont dit aussi, la bonne nouvelle d'hier, si tant est qu'il y en ait une, c'était l'esprit des Anderlechtois sur le terrain hier. Et il y a peu d'équipes en Belgique qui, avec... tous les problèmes qui sont les leurs, que ce soit financiers, sportifs, et qui sont réduits à 10 après 5 minutes, etc., etc., qui auraient comme ça eu un sursaut d'orgueil, parce que c'était un beau sursaut d'orgueil, et de toute l'équipe. Il n'y avait pas que 3 joueurs qui ont tiré tout le monde. C'était vraiment unanime. Moi, franchement, honnêtement, je tire mon chapeau à cette équipe d'Anderlecht.
On peut arrêter l'émission là, c'est bien.
Non, mais c'est la vérité.
Tout de suite, merci.
Ça faisait plaisir à voir.
On va y venir. Je voudrais qu'on conclue sur Bruges. Alors, moi, je regardais les résultats.
Moi, j'avais pronostiqué 3-1, mais pas dans le bon sens. Ce scénario. Non, pas du tout. J'avais pronostiqué 3-1 pour Genk, mais j'avais pas imaginé ce scénario-là. Je pensais qu'on aurait pris une plus grande leçon après une semaine de Parker à Bruges.
Je regardais les résultats préalables à pré-Coupe du Monde. C'était déjà une série de matchs nuls, de défaites. C'était difficile.
Ah non, c'est là, poussif,
Et alors, justement, bon, il y a Scott Parker qui arrive. Est-ce que je vous demande pas de regarder dans vos boules de cristal respectives. Faites ce que vous voulez. Mais est-ce que vous pensez que, justement, Scott Parker, avec les changements qu'il a l'air de vouloir instaurer. Est-ce que il va retourner les choses ou est-ce que Bruges est en train de tranquillement de glisser
Moi, je les vois en play-off 4, champion, ça me paraît compliqué à 15 points.
Quatrième, tu les vois, enfin dans les 4 premiers.
Oui, quand même, oui. Oui. Ouais, franchement, alors s'ils ne sont pas...
Moi, ils termineront. Bruges terminera premier ou deuxième, quoi qu'il arrive.
D'accord.
Moi, je pense deuxième ou troisième.
Il y a suffisamment de talent, il y a l'expérience, il y a tout, et au bon moment, ils vont se réveiller et ils vont enchaîner, ils vont faire une série.
C'est-à-dire qu'ils sont loin de Genk, donc à mon avis, c'est très compliqué.
Très, très loin de Genk, mais oui.
Mais par contre, pour la deuxième place, oui. Mais je ne les vois pas champions. Ce serait même pas normal en ayant développé
le football. C'est scandaleux, d'ailleurs. Mais voilà,
on est d'accord. Ce serait pas normal.
J'ai l'impression
comme l'année passée, l'Union méritait d'être champion sur le football proposé, on est bien d'accord.
Mais justement.
Mais j'étais très heureux de ça. Mais
Bruges a été récompensé de nouveau parce qu'il, malgré la suffisance, malgré le n'importe quoi sportif.
Ils ont gagné au bon moment.
Après, moi, ça fait des années que je me crains quelque part un scénario FC Bâle. C'est tout doucement en train d'arriver.
Tu entends quoi par là? Parce que là,
Bâle était champion de Suisse consécutif des années. Ils avaient des joueurs, ils revendaient des Salah, des Streller, des Cher, des autres joueurs qui revendaient Cher, justement. Et ils ont mal réinvesti leur argent. Et depuis lors, ils ont dégringolé. Ils sont plus champions facilement chaque année. Ils sont même plus champions tout court.
Enfin, mal investir à part Yaremchuk. Et encore, il faut lui laisser du temps de jeu. Hein, parce que là, on tire dessus, mais il a quasiment pas joué depuis qu'il est arrivé. Et puis, on lui a fait jouer un rôle qui n'était pas le sien. Enfin, bref, il faudrait d'abord le voir dans de bonnes conditions. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un joueur exceptionnel, ce qu'on jugeait en Belgique exceptionnel quand il était à la Gantoise, soit devenu vraiment un nul à Bruges.
C'est psychologique.
Voilà. Donc, il faut d'abord qu'il prenne de la confiance, etc. Donc, on demande à voir. Et peut-être qu'avec le football anglais, peut-être qu'on aura plus besoin d'une tour comme ça plutôt que de petits formats de poche. Donc on va voir. Ça, il faudra laisser le temps.
Mais même
partir.
Si on ne tient pas compte de Yaremchuk, on va tenir compte de Kremčić, de Okereke.
Ça oui.
Et du troisième, dont j'ai même oublié le nom entre-temps, Kaveresai, ça fait 20 millions de jetés à la poubelle.
Oui, enfin bon. Après, tout est une question de balance. C'est quand même une manne financière, enfin je veux dire, c'est quand même une gestion, une des deux, avec Genk d'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, qui est la plus saine en Belgique au jour d'aujourd'hui et qui est la plus rémunératrice.
Oui, tout à fait, mais tu as quand même jeté 20 millions et potentiellement 40.
Clairement.
Ce qui est quand même relativement énorme.
Tu en as récupéré via la Champions League.
Oui, mais c'est 4 fois le budget d'une autre équipe en Belgique.
C'est vrai.
Et tu les as jetés tout simplement à la poubelle pour des joueurs qui sont mauvais, qui ne fitent pas dans un système et encore moins dans un groupe, visiblement. Donc il y a un scénario.
Beaucoup aussi.
Donc, oui, oui, mais justement, il y a cette crainte de ce scénario du FC Bâle qui est en train d'arriver. Et si Bruges ne se ressaisit pas, tout doucement, ils vont dégringoler d'une position, le Bayern de Belgique, ça n'aura pas duré longtemps.
Mais ils ont aussi un avantage sur pas mal d'équipes. Je ne parle pas de Genk ni du Standard, mais c'est que, bien sûr, ils investissent et probablement qu'ils perdent de l'argent, c'est clair. Mais d'un autre côté, ils ont un centre de formation qui leur apporte quand même pas mal aussi.
Il y a un centre de formation, il y a un nouveau stade qui devrait arriver sous peu également, qui va commencer à être construit. Attention au syndrome du nouveau stade, comme la Ugand, Mönchengladbach, Lille.
Mais c'était pas avec les mêmes moyens, Gand, hein.
Non, mais il y a le syndrome du nouveau stade. Quand tu joues ta deuxième saison dans ton nouveau stade et une partie de ta première, tu es dramatique sportivement pour une raison tout à fait inconnue et des variables totalement inconnues. Mais tous les clubs qui ont ça ont ce passage à vide dans leur nouveau stade.
Ben oui.
Bon, et Genk, alors on a beaucoup parlé de Bruges.
Moi, s'ils sont champions, j'applaudis les deux mains. De ce que j'ai vu, et ça fait un an et demi que ça dure.
Ouais.
Franchement, rien à dire. C'est beau à voir, c'est huilé, c'est une bande de copains. Et encore une fois, tu n'as pas l'impression qu'ils bossent, tu as l'impression qu'ils s'amusent. Et ça, c'est la vérité. Ça respire. C'est un peu comme l'Union, à toute proportion gardée, je veux dire, mais parce qu'il y a du talent en plus et forcément, ils ont un noyau beaucoup plus étoffé. Mais c'est gai à voir, quoi. Franchement,
oui, mais tu as des joueurs qui ne sont pas des stars.
Non, du tout.
Qui sont réceptifs au message de Wouter Franken, qui a déjà drivé Malines énormément par le passé. Il arrivait à tirer quelque chose de ses joueurs. On voit où est Malines aujourd'hui avec les mêmes.
Hein. On est bien d'accord.
Mais quand tu vois... presque les mêmes. Donc il réussit, lui, à tirer le maximum de son groupe avec sa hargne, avec son envie. Bon, il se prend une carte rouge de temps en temps et c'est pas la première fois que je l'ai vu faire ça.
Ouais, mais
il en tire un maximum.
Il a pas des salopards sur le terrain. C'est des orfèvres, hein, les mecs. Quand tu vois Ito qui est parti, on s'est dit, mon Dieu, Genk sans Ito, ça va être quoi?
Pentil remplace parfaitement.
Attends, d'abord, et tu as Trésor, et surtout, Elkanous. Attends, ça c'est une pépite, à mon avis, ça va être le jackpot.
Tu parles du joueur, j'espère, pas de l'échevin.
Non, je parle du joueur de Genk. Attends, c'est
pas l'échevin, rien du tout, mais oui.
Qu'est-ce que c'est beau avoir joué, ce gars-là, il est juste éblouissant. Il a quel âge, 19, 20
18, 19.
C'est waouh, si ça lui monte pas à la tête, s'il a pas le syndrome Mbappé, franchement.
Je lui souhaite, hein, même avec la tête qui gonfle, je lui souhaite d'être Mbappé. Hein.
Oui, footballistiquement parlant, là, on en discute même pas. Mais je parle, voilà, je ne dois pas lui monter à la tête. Et mais ce gars, enfin, ils ont la chance d'avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Ça, il ne savait pas non plus à la base, mais tu vois comment il éclot, c'est juste une merveille. Hein. Mmh. Et à tous les échelons, ils ont comme ça un gars juste invraisemblable. Et
ils
ça
ont,
joue
ils ont eu de la chance en coupe.
Contre, oui, mais enfin,
contre un petit club, ils ont failli se faire sortir.
Ben, comme beaucoup. Comme Monaco. Clément.
Pure hypothèse. Et ils menaient 2-0. Hein.
Oui, tout à fait.
On voit d'où vient le syndrome.
C'est vrai.
On va passer à une autre équipe qui menait, malheureusement. C'est
pourquoi malheureusement
malheureusement pour elle, parce que ça n'a pas duré. Anderlecht,
bien sûr. Ça ne pouvait pas durer.
Ça ne pouvait pas durer. Non, il y a la fatalité, il y a la série. C'était la sixième rencontre en championnat depuis la remontée de l'Union. Six matchs, six victoires pour l'Union. Est-ce qu'il y a un syndrome Union qui est en train de s'installer dans les têtes anderlechtoises?
Non, il y aurait un syndrome Bruges dimanche aussi, j'espère en tout cas.
Henri,
c'est d'habitude, on prend un goal dans les 10 premières minutes, si on a pris un carton rouge.
C'est vrai. Pour changer.
Ça change un peu le scénario.
Alors revenons sur cette histoire de carton rouge.
Alors, c'est compliqué parce que si on applique le règlement, il y a une faute. Si l'arbitre estime que c'est le dernier défenseur, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est un cas de figure parce que le VAR intervient pour le hors-jeu.
Non. Le VAR intervient pas pour le hors-jeu. L'arbitre siffle hors-jeu. Mais comme il y a une faute et que le VAR a estimé que le gars partait seul au but, il rappelle l'arbitre en disant c'est dans ce cadre-là. Le VAR ne peut pas du tout intervenir pour dire il y a hors-jeu, en aucun cas. C'est parce que c'est dans ce cas de figure-là qu'il a pu intervenir. Sinon, il n'intervient pas, le VAR. Hein.
C'est-à-dire l'arbitre a sifflé faute et à ce moment-là...
Pas le faute, il a sifflé hors-jeu.
L'arbitre a sifflé faute et à ce moment-là, le juge de touche a levé son drapeau parce qu'il attendait que l'action se termine.
L'arbitre a levé la main, on le voit bien dans les images, il lève la main en sifflant. C'est hors-jeu. Clairement. Et là, le VAR peut le rappeler. Parce que là, pour le VAR, il y a suspicion d'une erreur d'arbitrage qui peut entraîner un but. Parce que si c'est dans le R2, s'il y a trois défenseurs derrière, le VAR n'intervient même pas. Mais il a sifflé hors jeu. Ce qui est toujours une aberration pour moi. Hein, parce que voilà, c'est débile. Tu peux tout reporter. Un jour, il faudra soit tout. Tout vidéo ou pas, parce qu'à un moment, tu te dis, on a eu un truc comme ça, un corner qui est pour une équipe qu'on ne siffle pas, il y a une remise en jeu, alors que le corner est énorme et sur la remise en jeu, il y a but de l'autre côté. Tu fais quoi?
On revient à la faute.
Mais le VAR ne peut pas, parce que normalement, le VAR, vois les images, le VAR devrait dire, écoute, gars,
oui, le VAR n'a pas le... Il n'intervient pas sur
tout. Il ne peut pas. Il ne peut intervenir, à ma connaissance, je parle sous le contrôle. Soit s'il y a une suspicion de carte rouge, c'est alors ça. Que l'arbitre est intervenu sur une carte jaune, soit...
C'est ça que je veux dire, il n'a pas donné de carte jaune, non.
Le VAR peut intervenir s'il a vu une faute qui mérite une rouge, même si c'est de l'autre côté du terrain et que l'arbitre était à l'opposé, le VAR peut l'appeler pour voir un truc qui mérite une rouge.
Mais
j'ai bien compris.
Mais ça fait des années, ça, depuis 16 ans, c'est comme ça. Regardez, un type en finale de Coupe du Monde met un coup de tête, personne ne l'a vu, et il y a un arbitre qui tombe sur une vidéo et qui dit oh, il paraît qu'il met.
Ouais, c'est même pas dans la phase en plus. C'est pas dans la phase.
C'était pas le quatrième arbitre.
Si.
Ouais. Mais donc là, pour le
de
coup.
Sinistre, de toute façon, c'est pas un scandale. Après, l'arbitre, c'est quand même toujours l'arbitre du terrain qui doit prendre la décision. Donc il est aidé par le VAR.
Mais c'est-à-dire que je me mets dans sa place, il siffle hors jeu, on lui dit va voir, il voit qu'il n'y a pas hors jeu. Parce que ça, c'est clair, on le voit sur l'image. À partir de là, il y a donc faute. Et donc, il faut une punition pour la faute. Et là, ça devient, effectivement, sa décision.
C'est son interprétation. Parce qu'effectivement, il y a
deux bases qui reviennent.
Voilà. C'est sur le côté droit. Il fait une course diagonale. A priori, il est de, enfin. 90 fois sur 100, on va dire qu'il est dernier. Il va seul au but et la faute, elle est commise par le dernier défenseur. Peut-être qu'il y a quelques cas où de base, t'aurais rattrapé. Mais c'est pas scandaleux, en tout cas.
D'un point de vue géométrique, il est dernier défenseur. Et Lazare file vers le but. Donc moi,
c'est pas scandaleux.
C'est embêtant pour le match, pour les supporters d'Anderlecht, mais c'est rouge.
C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où le règlement ne laisse plus de place à... Il y a l'esprit du jeu et le jeu. Il y a l'esprit de la loi et la loi. Et je pense que là, on est en train de glisser sur quelque chose
toi.
De très mécanique.
Mais là, je te rejoins. Mais par contre, je reviens à une discussion que j'ai de manière sempiternelle avec des gens qui me sont proches. Ils disent toujours, oui, les arbitres, ils donnent jamais de carte jaune en première mi-temps, c'est pas juste, etc. Et ben, pour le coup, là, c'est vrai qu'en général, dans les grands matchs, c'est rare qu'avant la 20e minute, sauf vraiment pour un attentat, tu aies vraiment des jaunes. C'est très rare d'avoir une première mi-temps qui se termine avec 5 jaunes. pour un match qui était sur le terrain à la fois quand même relativement correct. Les joueurs, c'était pas méchant, je veux dire, c'était tendu, mais c'était pas méchant. Là, pour le coup, l'arbitre a décidé de faire autrement. Comme je te dis, de mon point de vue en tout cas, c'est pas un scandale de donner la rouge. Non, ça n'aurait pas été un scandale de ne pas la donner, dans les deux cas. Comme je suis le premier à dire que pour moi, si là, je suis arbitre, il est dehors après sa première faute, parce que pour moi, c'est volontaire, point. Mais donc voilà, tu vois, la zone grise est là, mais... voilà, il y a les deux. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que tu joues depuis 30 secondes et qu'après tu fais une sale faute que pour autant tu dois pas être puni parce que l'arbitre va te dire, mon Dieu, si je donne une jaune maintenant, c'est le défenseur central, on va pas finir. Non, c'est
non,
le
moi
jeu,
je crois
c'est
que
le jeu. Point.
Et l'arbitre, s'il doit prendre des décisions qui sont un petit peu orientées, je dirais entre guillemets, ça doit être uniquement dans la perspective de tenir son match à lui, pas dans l'idée de se dire bah si je donne un rouge maintenant bah ils vont jouer 87 minutes à 10 contre 11, bah, c'est la vie.
S'il pense comme mais, ça alors.
Mais de voilà. Toute façon l'arbitre est jugé sur sa performance,
sur sa performance
et son évolution vers l'Europe ou vers la D1B, elle dépend de ça aussi.
Mais je lisais c'était un mot à l'occasion du décès de Pelé, on avait parlé de Abraham Klein, l'arbitre israélien qui avait arbitré Angleterre Brésil en 70. Et il disait que on lui avait donné comme conseil, donc quand il avait été nommé pour ce match, alors qu'il avait assez peu d'expérience, l'arbitre anglais qui l'avait briefé lui avait dit tu ne donnes aucun avantage dans les 10 premières minutes. Tu laisses jamais jouer l'avantage dans les 10 premières minutes. Tu siffles qu'ils comprennent que c'est toi qui as le sifflet et les cartes en main.
Bien sûr.
Et que ça va imposer du respect. En dehors de ça, moi je crois que l'arbitre il doit avoir un jugement froid, et malheureusement, si c'est au bout de 20 secondes, eh ben c'est au bout de 20 secondes.
C'est ce que je pense aussi. Par contre, j'ai vu, je sais pas si vous avez remarqué ça, moi j'ai trouvé ça génial, parce que c'est rare de voir un arbitre revenir sur sa décision spontanément sans qu'on le rappelle. Je pense que c'était Anderlecht Union. Il y a un joueur qui siffle hors jeu pour et le joueur de l'Union se fâche parce qu'il dit mais enfin c'est une remise en touche etc et donc il y a tout un pour parler, donc les joueurs de l'Union sont allés chez Bram Van Rich qui était, c'est ça.
Ouais.
Et le gars, il a eu l'honnêteté, je trouve, et l'humilité de reconnaître son erreur, quoi. Parce que tous les joueurs sont venus à la jambe de dire, ouais, c'est de l'influence. Non, c'était sur la remise en jeu que le gars, il n'y a pas hors jeu. Donc c'est le béaba de la règle. Et c'est rare de voir, au jour d'aujourd'hui, un arbitre qui dit, OK, il a redonné la balle à l'Union. Chapeau bas, je dis. Parce que, au jour d'aujourd'hui, les arbitres, ils sont plénipotentiaires et, voilà.
Mais il y a un autre fait de jeu qui a eu une influence sur le match, c'est la blessure de Sardella et le faux changement.
Ah oui.
Alors ça, c'est le staff d'Anderlecht, hein.
Oui, mais il y a autre chose. Je suis d'accord. C'est clairement une faute professionnelle du staff. C'est surréaliste.
Mais je me demande maintenant.
À 10 contre 11.
Maintenant, je pose la question. Sardella remonte parce qu'il se rend compte qu'ils sont qu'à 10. Il peut pas remonter sans l'accord du quatrième arbitre.
Ouais.
L'arbitre siffle une faute de Sardella et lui donne une jaune. Tout à fait normal. Pourquoi il ressort?
Parce que l'arbitre lui a demandé de ressortir.
Mais pourquoi?
Parce qu'il doit attendre que l'arbitre lui fasse signe de rentrer.
Mais il y a eu la faute, il aurait très bien pu à ce moment-là le laisser rentrer.
Ouais, c'est...
Tu comprends? La phase finalement se termine
c'est
à 9.
C'est pas faux, mais en même temps...
Il a pris la jaune, ils ont eu la faute a été sifflée pour l'Union, puisqu'il il a touché le ballon, enfin il a participé au jeu alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Donc à ce moment-là, au moment de la faute, il devait reprendre sa place sur le terrain. Et on le laisse pas. L'action se déroule, ils sont à 9. L'Union arrive dans le rectangle. À ce moment-là, quand l'Union est dans le rectangle, le quatrième arbitre autorise Sardella à monter sur le terrain.
Principal.
C'est le
principal qui décide.
Qui fait un signe.
Et là, tu prends un but. C'est effectivement très dommage. Oui.
Donc je me demande, si, après la faute, après le carton jaune reçu, pourquoi Sardella n'était pas sur le terrain? Ça, c'est ma question.
Oui, je pense qu'effectivement...
C'est une bonne question.
Tant qu'il n'a pas l'autorisation de l'arbitre...
Il doit rester dehors.
Il reste dehors. Il lui met un jaune, non pas... Enfin, il lui met un jaune justement parce qu'il est rentré sans...
Mais il est sur le terrain. Il est jaune, il prend le jaune quand il est sur le terrain. Il fait une faute de règlement.
Il n'est pas obligé sur le terrain ou prendre une jaune.
Non, non, mais là, il l'était. Donc pourquoi il n'y est plus après?
À mon avis aussi, peut-être que l'arbitre a jugé que la blessure, parce que c'est sur blessure qu'il est sorti, que c'était pour gagner du temps, peut-être, hein, je suis dans l'hypothèse la plus totale, et que l'arbitre a jugé qu'il a essayé de gagner du temps, qu'il a fait sortir du terrain pour être soigné, et qu'après il est rentré, donc l'arbitre s'est dit, mon coco, tu as voulu jouer, maintenant c'est à moi de jouer. Peut-être, hein, je ne dis pas que c'est ça,
c'est
mais...
Drôle,
il y a toujours 5 secondes d'être sur la touche, et l'arbitre doit dire...
Mais d'après ce que j'ai entendu après le match, c'est l'entraîneur qui lui a dit remonte.
Mais c'était en panique, c'est-à-dire.
Oui, je crois qu'on voit sur les images.
Le Vertonghen qui crie au score.
On voit limite qu'il le pousse pour qu'il revienne sur le terrain.
Ah, oui.
Et c'est une faute de l'entraîneur, vraiment. Okay.
Oui,
de ne pas avoir fait le changement.
J'ai plus l'action tout à fait en tête, mais il se dit peut-être aussi, mieux vaut qu'il prenne un carton jaune et qu'il arrête une action très dangereuse plutôt qu'autre chose.
Enfin, c'est débile, c'est une faute du staff, mais
c'est une faute du staff.
C'est clair. En plus, le gamin, parce que c'est un gamin, Sardella, il ne faut pas l'oublier aussi. Quel âge, 19?
Oui. Comme ça, oui.
Ouais. voilà, un gars comme ça qui en plus reçoit sa chance, qui doit être dans un état pas euphorique, mais tu vois, une adrénaline de malade. Il sait qu'il peut pas se louper ce match-là parce qu'il attend ce moment-là depuis je sais pas combien de mois.
Il joue monte parce qu'il jouait déjà pas mal sous Compagnie. Hein, oui. Regardez là, attention.
Mais il était hué par le public. Tu te
souviens ? Il monte après la carte rouge. Hein, il commence pas le match.
Mm-hmm. C'est lui qui remplace Rafaelov.
En tout cas, le staff, c'est une grosse erreur à ce niveau-là, quoi. C'est... Parce que Sardella, il n'est pas responsable. Il est blessé, on le sort, et puis il dit, c'est bon, on va changer.
Oui, c'est ça. Il y a une sympatoge, c'est-à-dire qu'à...
Il est blessé,
à 10 contre 11, je pense qu'il faut être vraiment sur le coup, et on peut pas se permettre à 10 contre 11 de patienter quelques secondes de trop pour...
Mais là, il y a d'autres tactiques, il y a ce manque d'expérience, si le gardien maintenant il se couche par terre, etc., le jeu est arrêté, et là de nouveau tu gagnes un peu de temps sur le banc pour repositionner aussi. Donc il y a un peu cette technique salopard de qui manque à Anderlecht, et ça c'est une équipe malade, ça se voit tout ça aussi.
Après ça fout, c'est
en même temps, si c'est une équipe de, si c'est des salopards qui manquent, moi je salue ça parce que il y en avait marre de voir des salopards comme l'Antwerp qui est capable. Alors ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais franchement, quand ils se mettent à vouloir gagner du temps, c'est juste...
Bonsoir, hein.
Ah ouais, franchement, c'est...
Alors
c'est
parlons d'équipes qui ne sont pas des salopards. L'Union. Parce que quand même...
Mais ils apprennent vite, hein, parce que j'ai vu comme ça quelques petits trucs vicelards un peu.
Et c'est ce qu'il fallait les années précédentes.
C'est ce qui les a peut-être privés du titre l'an passé. Oui. Victoire 1-3 dans des circonstances comme celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une rouge très tôt dans le match... L'Union a pas l'air de réussit pas tellement son affaire. Ils réussissent pas à marquer. C'est Anderlecht qui marque la première.
Le meilleur joueur d'Anderlecht, c'est le gardien.
Verbruggen, hein. Il a fait un super match.
Après, sinon, attention, parce que jouer
0-3, mais tranquille. Hein.
Attention, parce que jouer contre 10, c'est très compliqué.
C'est vrai. On est d'accord.
Ici, maintenant, on a vu. Les 10, ils se sont donnés à 150%.
Mais comme ils sont sympas.
Pendant 80 minutes. Mais il y a un moment où,
quand ils sont sympas, les Anderlechtois, ils se sont dit à 10, c'est compliqué. Mmh. On va être à 9. On va mettre Sardella sur le côté. On va voir comment ça se passe.
Ça se passe mal.
Mais c'est là. Et puis, en une fois, 1-1. Et là, tu sais que ça va.
Après, ça doit faire faire un beau match. Ouf. Et ça met une drôle d'ambiance quand même. Avant le match, au moment du briefing, on apprend que Van Krom n'est
pas sur là-dessus. Le banc. Moi, je n'avais pas suivi.
Il a raison.
Ils sont tellement malades à Anderlecht. C'est leur capitaine.
Mais...
Alors, j'ai lu dans les journaux. Alors, est-ce que c'est, je dirais, de la poudre aux yeux ? J'en sais rien, mais c'est pour des mesures financières. C'était l'un des plus gros contrats d'Anderlecht qui leur coûtait plus cher avec Trebel.
Pas que le financier. Bon.
Mais le mec, c'était quand même capitaine... courage, parce qu'il était, il se défilait jamais des
interviews.
Il parlait pas langue de bois, mais propre, jamais tacler la direction, jamais. Du jour au lendemain, le mec, on lui dit ciao, bye bye, tu te casses.
Oui, c'est mieux pour toi de partir.
Oui, mais
après, attention, le Verbrugge, il est très bankable.
On est d'accord.
Burnley et compagnie voulaient déjà l'acheter l'été dernier. Ce gardien a beaucoup de talent.
Ah, je dis pas ça, mais pour.
C'est
pour...
Celui-là, tu vas pouvoir, tu le fais jouer, tu pourras le vendre cher. Henry Van Krombrugge, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui.
Ouais, mais tu lui dis pas ça du jour au lendemain. C'est ton capitaine.
Non, sur ça, il y a deux raisons.
C'est monstrueux. Je veux dire, tu vas me dire, Marc Cook n'est pas à son coup d'essai, mais je pense pas qu'il ait encore beaucoup de voix au chapitre à ce niveau-là. Mais, franchement, waouh. Moi, je me mets à la place de Van Krombrugge. C'est même pas une gifle, c'est un uppercut, quoi. Tu prends en pleine tronche. T'es quand même le capitaine de l'équipe qui a le plus beau palmarès en Belgique, qui est soi-disant la vitrine du foot belge. Et comme ça, tu arrives dans ton vestiaire, on dit non, aujourd'hui tu joues pas. Et puis, by the way, si tu peux trouver ailleurs, vas-y, fin du mois, waouh.
Il y a eu d'autres changements encore. Ça passe un peu inaperçu, mais ils ont viré Jean Kindermans.
Oui, aujourd'hui, j'ai vu ça.
Qui était le directeur de l'académie. Qui était...
Oui. Il était en vacances, mais ils ne lui ont pas donné son C4.
Ils l'ont mis à l'écart.
Après, c'est très compliqué.
Faire un long préavis.
C'est très compliqué de juger quand on ne connaît pas la cuisine interne. Mais tu as quand même eu... quelques remous, on va dire, entre Wouter van de Noot, qui est à la gestion quotidienne, Peter Verbeek, qui est directeur sportif. Il y en a un qui voulait absolument Felice Mazzu, l'autre ne le voulait absolument pas. Une fois que Felice Mazzu, malheureusement, a raté sa saison ou son début de saison à Anderlecht, il y en a un qui a été chez l'autre, qui l'a dit « t'as vu, j'avais raison ». Puis il est tombé en burn-out par le plus grand des hasards. Et après, il revient, mais on doit le replacer.
Petit les hasards, d'habitude.
On doit le replacer. Donc,
Peter
Verbeek est replacé à l'académie maintenant, en lieu et place de Jean Kindermans. Donc, c'est un peu...
D'accord.
On va dire c'est le monde du foot.
On en parle depuis l'arrivée de compagnie. Puis, un peu de stabilité dans le staff, ça serait pas mal quand même.
C'est qui nous disait, on avait un invité qui nous a dit un jour, le foot c'est que du mensonge de A à Z. Et qui nous avait dit ça?
Pas moi.
Non.
Mais c'est presque.
Mais Fred Oissège.
Je pense que c'est notre ami Fred Oissège qui nous avait dit ça lors d'une interview.
Ça lui ressemble bien.
Donc, on conclut sur ce derby bruxellois. La main est en train de tourner.
Enfin, pour le moment, il n'y a pas photo. Hein. Franchement,
il n'y a pas photo. Après, l'Union reste ancrée dans le top. Et Anderlecht, je pense que vu l'abnégation, vu l'envie qu'ils montraient hier, et qu'ils ont gagné à Charleroi aussi avant la mini-trêve.
Puis en coupe, ils ont pas fait un mauvais match non plus contre Genk.
Mais ça, ils sont éliminés. Mais je veux dire, ils ont montré quelques belles choses en championnat. Ils ont pris des points, surtout à Charleroi, ce qui était essentiel.
Chef, ils sont durs avec moi.
Ils sont durs là aujourd'hui. Mais écoute,
c'est vrai. En championnat, tu dois prendre des points. Et certainement, dans la position Courtrai et Zulte Waregem se sont renforcés. Avec un coach également du côté de Courtrai qui est Bernstorck. Et Waregem a été chercher des joueurs.
De
oui, mais qui a surtout sauvé.
C'était un clin d'œil.
Il a sauvé Moucron, il a sauvé le cercle aussi.
Il a sauvé Genk aussi, en partant.
Mais je veux dire, c'est sa spécialité. Et là, les équipes, elles prennent des points. Et je pense qu'Anderlecht était quoi, 6, 7, 8 points de la zone relégable?
9.
9.
Mais par contre, je voudrais revenir un instant sur l'Union, si vous êtes d'accord.
Absolument.
Mais c'est une équipe, ça fait maintenant 15 mois. 15 mois, je parle même pas de deuxième division, où elle déjoue, mais tous les pronostics et toutes les statistiques. C'est juste invraisemblable. On a dit l'année passée, il n'y a pas de noyau, ça peut pas durer, boum, dernière journée de championnat, ils sont coiffés. On a dit, ouais, mais la deuxième saison, ça va être une catastrophe, ils vont redescendre parce que c'est toujours l'ascenseur, boum, ils sont là. Et
deuxième, 7 points de retard seulement, j'allais dire, sur Genk.
Il n'y aurait pas Genk aujourd'hui, ils survoleraient le championnat, très honnêtement.
Mais ça, attention, il y a énormément de crédit pour Carole Gerhardt.
Oui, tout à fait.
Qui fait un travail vraiment exceptionnel.
Et on a entendu la même chose, il le faisait déjà
avec Felice à l'époque, parce que Carole était aussi une tête pensante, tactique, sur les phases arrêtées, Et lui, il sait inculquer, c'est un battant, on l'a vu à Bruges, au Standard, à Charleroi, au HL, quand il était joueur. Je pense qu'il aurait même pu avoir encore une plus belle carrière si les planètes étaient alignées. Parce que sous Soliette, on s'en souvient, il n'avait pas beaucoup de sa chance. Mais il aurait pu faire une plus belle carrière que ça. Mais il inculque cette culture de la gagne et son calme aussi hier. On continue à jouer, ça va rentrer. Et ça, on l'a vu dans l'attitude des unionistes. Mais ça, franchement, gros coup de chapeau.
Par contre, si tu joues avec mon entraîneur comme ça, j'y crois jusqu'à la mêlée.
On a quand même vu que sans Teddy Thomas, c'était pas tout.
Ils ont quand même gagné.
Oui, tout à fait.
Et finalement, on a dit oui.
Après, ils jouaient contre le 11e.
C'est vrai, mais par contre, là où moi j'ai trouvé que, par rapport au match que j'ai pu voir de l'Union ces derniers mois, c'est que là où Thomas a le plus manqué, c'est sur les phases arrêtées. Ça, c'est clair. Parce qu'elles n'étaient pas aussi précises, aussi chirurgicales que quand lui.
Mais ça reste un joueur essentiel.
Ah, bien sûr.
En tant que box-to-box, en fait. Parce qu'il est capable de récupérer le ballon très bas. De le redonner très haut, d'avancer lui-même sur le terrain. Il a déjà marqué quelques buts où il avançait lui-même 40 mètres avant de la mettre dedans. Mais surtout, même en perte de balle ou même quand il n'a pas le ballon lui-même en possession, il est capable de se décaler vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière et attirer des opposants vers lui pour créer de l'espace pour ses coéquipiers.
Et puis surtout, il est intelligent.
Et je trouve que Teddy, en fait, il mériterait le soulier d'or plutôt que Mignolet qui a fait 10 beaux arrêts dans des matchs essentiels.
10, c'est pas... Je pense que c'est un peu 12. Plus. Après, oui... Je suis d'accord avec toi, moi j'adore Thomas, parce que je te dis, c'est un joueur intelligent. Même quand il loupe ce qu'il fait, c'est un petit peu, alors on va pas comparer les deux personnalités, mais c'est un peu comme un De Bruyne. Même quand il rate quelque chose, tu sens, quand tu vois l'idée qu'il avait, tu te dis, c'était la bonne option. Mmh. Thomas, c'est pareil. C'est jamais stupide, c'est jamais n'importe où. C'est toujours réfléchi.
Alors on va clôturer le chapitre Pro League avec un petit rappel du classement. Genk donc en tête, 49 points, 7 d'avance sur l'Union. L'Antwerp 3e avec 10 points de retard sur Genk. Le club de Bruges 4e, 34 points et donc 15 points de retard sur Genk. Viennent ensuite la Gantoise 31, Standard 6e avec 30 points. Westerlo 30 points également, 7e place et Saint-Tron 8e. Pour l'instant, voilà les 8 équipes qui seraient qualifiées pour les play-offs.
À noter quand même en bas la victoire de Serein. Alors j'ai pas vu le match, mais elle était essentielle cette victoire. C'était mal embarqué.
Opération zéro.
Oui, je pense.
Ils ont tous les trois gagné.
Exact, mais en même temps ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu de points non plus. Donc en ils fait, sont oui, toujours
ils,
dans la course.
Ils se permettent de se rapprocher d'Ostende et de garder une lueur d'espoir.
Tout à fait.
Même si je pense que Serein est malheureusement l'équipe la moins forte en bas. Bah,
elle s'est pas renforcée. Zult s'est renforcée solidement et je ne parle pas que de Vormer, mais surtout Bruls. Moi j'ai vu jouer.
Ouais.
Je sais même pas comment Saint-Tron a pu le lâcher, mais j'imagine que
contrat
voilà, c'est ça, parce que ce type, c'est, il a sa place ailleurs que au SCV aussi, hein, sans problème. En termes d'investissement et d'implication, c'est juste une merveille à voir jouer. Courtrai aussi, et voilà. Donc j'ai un peu peur pour Serein. En même temps, se dire que Serein ferait une belle équipe dans le stade qu'ils ont, franchement, c'est pas glamour.
C'est un chouette stade.
Oui, d'y aller, oui, en tant que spectateur, mais en termes de foot, tu vois pas un beau match à Serein, quoi. C'est pas possible.
Le terrain est assez dramatique. En plus d'avoir un dénivelé, c'est pas facile parce que ce terrain est très boueux, très humide. C'est pas idéal.
S'il y a pas des taupes qui regardent le match.
Allez, on va arrêter sur la poly, parce que sinon on va commencer à tailler
les. Très beau championnat.
À tailler les jardiniers.
On parlait du stade de Serein, et franchement, c'est chouette.
Perret,
pour terminer 10 secondes là-dessus, c'est vraiment un chouette stade, authentique. Ça respire le foot.
Comme à l'époque, le Frétil. Pas le Frétil, Saint-Tron, c'est
Stallion. Mais le Frétil aussi, tel qu'il était avant la construction de la nouvelle tribune.
Le Stallion, où tout était en bois, et tu bougeais en même temps que les... Même si tu voulais pas, tu bougeais. Hein. C'était sympa.
Alors, depuis la fin de la Coupe du Monde, il s'en est passé pas mal de choses.
Non.
Eh oui. Le roi Pelé est décédé. On n'a pas eu le temps de se voir depuis.
C'est vrai.
On va pas faire l'émission, ni les 10 minutes qui nous restent dessus, bien sûr, mais un petit mot...
J'ai posté une vidéo où il y a un montage qui a été fait et on voit des gestes de Pelé et puis les mêmes gestes refaits par Zidane, par Beckenbauer, par Cruyff.
Elle est super cette vidéo.
Il a tout inventé, vraiment, c'est très très impressionnant.
Ouais, c'est vrai que c'est à l'attention aussi des plus jeunes qui ont tendance à brûler en un instant ce qu'ils n'ont pas connu en disant c'est forcément moins bien. Et c'est vrai qu'en regardant ça, c'est peut-être exécuté avec moins de rapidité que certains gestes techniques actuels, mais c'était il y a 60 ans, et quand vous le voyez faire... par exemple, oui, il y a le but de Zidane, où en championnat d'Espagne, où il fait deux feintes, une à droite, une à gauche, il amène tout le monde et il finit par frapper. Exactement le même but. C'est
les dribbles de Neymar.
C'est vraiment...
Il avait tout inventé. Il était le football, comme disait Platini.
C'est ça, il était un roi.
Et pas que le football, c'est aussi le premier joueur vraiment marketing.
Il a connu effectivement la grande épopée du New York Cosmos et il a été acteur puisqu'il y a ce fameux excellent film À nous la victoire
avec Paul Le Gazon,
avec Paul Van Imst
et effectivement plein de joueurs dont Paul Van Imst, Osvaldo Ardiles.
Je vous recommande ce film, enfin
ouais, non,
ça a vieilli mais c'est sympa.
Et Stallone.
Est-ce que vous connaissez le nom de Pelé dans ce film? C'est très amusant.
Ça, j'ai complètement oublié.
Luis Fernandez.
C'est un Français qui nous le raconte.
Comme Luis Fernandez. Et d'ailleurs, en parlant de Paul Van Imst, en lisant, en m'informant un peu, que pour son jubilé, il est quand même le seul, je pense, au monde, à avoir associé Pelé et Cruyff,
oui.
Puisque les deux participaient au match. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de matchs dans lesquels les deux joueurs...
Qui a choisi le numéro 10?
Je pense qu'ils l'ont laissé appeler.
En fait, ils ont le 10 à Cruyff et le 14
le
9 à Pelé.
Voilà. Le 14 à Cruyff.
Le 14 à
Cruyff. Le
9 à Pelé.
Justement, on va parler d'un numéro...
Bon, elle est belle.
On va parler d'un numéro, le numéro 7. Le numéro 7, le CR7. Puisque depuis la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur CR7 a déménagé... en Arabie Saoudite.
Ah oui, alors, je peux faire un petit coup de gueule sympa à nos amis de la DH. Je les adore. Hein. Alors franchement, ils ont été payés un journaliste qui nous a expliqué que c'est 357 mètres carrés, 17 chambres, et voilà dans quoi va loger Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement?
Il faut remplir les journaux. Ce matin, je lisais 4 tactiques pour avoir la fève dans la galette des rois. C'est pas forcément d'un plus haut niveau.
Je suis d'accord avec toi, mais enfin, je peux
rester dans le soir.
Aussi les mesures de mon appart, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est extraordinaire. Ça ne fait plus rêver les gens, ça les fait jalouser et ça n'apporte rien.
Ce qui est terrible pour Ronaldo, c'est l'interview qui ressort, qu'il a fait il y a quelques années, où je vais terminer dignement dans un club de haut niveau.
Ouais, j'ai pas vraiment d'avis sur le fait qu'il y signe ou pas en raison du montant qui lui est proposé. c'est tellement indécent que ça peut, c'est difficile de l'envisager. Moi, ce qui me pose plus problème, si ça se confirme, c'est qu'il est censé être l'ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030, et qu'en face de lui, eh ben, il y a la candidature portugaise, si je ne m'abuse.
Mais il faudra voir, peut-être que Martinez ne va pas le laisser être l'ambassadeur.
Et donc, il risque de se mettre à dos peut-être une partie de son public. Je trouve que ça, c'est un peu dommage.
Il ne va pas par hasard. L'Arabie Saoudite ne dépense pas par hasard
300 millions.
Autant d'argent, même s'ils en ont qui. Tu ramasses les pièces d'or par terre. Il y a de toute façon quelque chose qui se prépare. D'un point de vue sportif général, il y a la Coupe du Monde qui veulent organiser avec la Grèce, la Turquie, toute une partie de pays par là. Il y a aussi d'autres jeux, d'autres événements sportifs.
Oui, on en a parlé.
Et qui veulent contrer un petit peu ce que le Qatar a fait avec cette Coupe du Monde et avec.
Ils vont organiser les Jeux Olympiques d'hiver.
Les Jeux Asiatiques d'hiver sont prévus en Arabie Saoudite.
En 2029.
Absolument.
Donc, il y a tout ce master plan et Cristiano Ronaldo en fait partie et ça se voit sur les réseaux sociaux aussi. Al Nasser, ils ont 10 fois plus de likes.
Ils ont été jusqu'à l'autoriser à habiter avec sa compagne alors que c'est interdit, ils sont pas mariés.
Mais oui, mais voilà.
Et alors, on parle d'un autre joueur qui viendrait peut-être renforcer l'attaque d'Al Nasser. Ce serait pas le plus grand des hasards. C'est le plus grand des hasards. On parle d'Eden Hazard. Alors, est-ce que ce serait une bonne porte de sortie? Bon, de toute façon, on peut pas vraiment juger.
Affaire, non, moi, je peux pas croire un instant que Eden va aller là-bas. Alors,
j'espère pas non plus pour lui. En tout cas, ça va le dépayser, Ronaldo.
Il a déjà l'habitude de la traversée du désert, hein, mais bon.
Joli. ça va le changer, Ronaldo, puisque son premier match, il devrait le jouer face à Messi, puisque le PSG qui a pas assez de, ils ont pas assez de temps pour faire le championnat, la coupe, pour envoyer des gars au Qatar pour la Coupe du Monde. Non, ils se sont dit qu'ils allaient faire une tournée. Donc entre deux matchs de Coupe de France, ils vont faire une tournée en Arabie Saoudite pour y affronter pas seulement Al Nasser, c'est Al Nasser et Al Hilal. Les deux clubs vont fusionner pour l'occasion. Et Rudy Garcia doit être très content, l'entraîneur de Al Nasser, puisque ça n'est pas lui qui dirigera l'équipe, mais Marcelo Gallardo. Anecdote, retrouvera Christophe Galtier. Les deux s'étant très bien connus dans un vestiaire, dans un tunnel du stade Vélodrome, où, comme par hasard, les caméras ne fonctionnaient pas ce soir-là, et où, au retour de la mi-temps, Gallardo était revenu avec une tête comme ça.
Film.
C'est ça.
La cassette avait fondu.
On parle de Ronaldo, on va passer à son nouveau sélectionneur. Ça nous intéresse particulièrement, puisqu'on a appris aujourd'hui que Roberto Martinez était nommé sélectionneur du Portugal.
Ma réaction, c'est que ça veut dire que pendant 4 ans encore, Cristiano Ronaldo sera capitaine de l'équipe portugaise, blessé ou non. Voilà.
Et il y a 5 joueurs d'Anderlecht qui seront appelés en sélection portugaise.
Dont Fabio Silva.
Peut-être. Je pensais plus à De Bast ou Sardella ou d'autres.
Et c'est une belle porte de sortie pour Martinez.
Il était déjà sorti.
Non, mais c'est une sélection qui. On met le cas Ronaldo de côté.
Pour Martinez, c'est magnifique. Ouais. Pour les Portugais, c'est dramatique.
Il y en a 80% des Portugais, des supporters en tout cas, qui sont contre. Après, il suffira d'un match où ils vont gagner 2-0 et ce sera inversé. On le sait comment ça va vite en foot.
Mais déjà, un coach espagnol au Portugal, culturellement, je pense que ça va être pas si simple comme ça.
Est-ce qu'un coach français en Belgique, ça serait simple culturellement?
Mais il est pas français, il s'appelle Henri.
Après, je sais pas si Martinez sera capable, de ce qu'on a vu en Belgique, de gérer des égos qui sont quand même vachement plus surdimensionnés que les égos belges, grosso modo.
Mais faire éclore une nouvelle génération, hein. Surtout.
Je parle même pas de Ronaldo, mais des Joao Félix et des gens comme ça, ça va être difficilement gérable pour lui quand on voit comment il ne se sépare pas des cadres pour pas
passer. On arrive à la fin et ce serait dommage.
Ah oui, sportif.
Ce serait dommage de ne pas avoir notre minute sportive.
Alors. Ce sera la minute, ça c'est clair. Pardon.
Et non, ça n'est pas le coup de sifflet final, c'est le coup de sifflet de Sporting Race ce soir, voilà.
Non, mais on va pas parler business, mais on va parler un peu de responsabilité sociale des clubs de foot en Angleterre. Donc on le sait, un des fléaux en Angleterre, c'est un peu la sexualité des joueurs, qui au drague beaucoup, qui vont en boîte, et il y a eu beaucoup de problèmes les dernières années. On pense à Mendy par exemple, qui est quand même inculpé aussi, dans plusieurs histoires. C'est quelque chose qui ressort depuis beaucoup d'années et la Ligue de football anglaise en 2021 avait déjà pris des mesures et ils avaient obligé les footballeurs de D2, D3, Championship, D3 et D4 anglaises à être formés au consentement sexuel quand ils rencontrent des fans par des applications, en boîte, en rue, dans les stades, après, par les réseaux sociaux, par toutes les manières qui soient. Et là, la fédération a décidé, cette année, maintenant en 2023, que les joueurs de tous les clubs de Première Ligue vont également devoir suivre cette formation pour justement les aider à ne pas commettre ces erreurs. On sait très bien, il y a des cas réels où il y a des abus, il y a d'autres cas où certaines femmes peuvent en profiter vu les millions que ces joueurs gagnent, mais vraiment, il y a cette envie de la Ligue anglaise de se mettre en avant et d'aider les causes féministes avec leurs joueurs pour éviter ce genre de problème à l'avenir.
C'est en soi une bonne initiative de le faire, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on soit obligé de le faire.
On est bien d'accord là-dessus. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, ça n'a pas de commune mesure, mais comme Noah Lang, qui avait tenu des propos antisémites ou avait chanté des chansons, on l'a emmené à Brindong, quoi. Voilà, alors c'est très bien, c'est mieux que de ne rien faire, mais c'est malheureux de devoir en arriver là, quoi.
Surtout que ce sont des formations par club.
Voilà.
Tous les joueurs qui se connaissent entre eux, etc.
C'est des cours pratiques. Donc,
je ne sais pas. Dès que j'en sais plus, je t'invite aux cours pratiques.